Avant de commencer la prédication, on va prier. Merci, mon Dieu, de l'Église. Merci du corps que tu construis. Il est très humain. Il a beaucoup de défauts et perfectibles, mais en même temps, c'est un lieu où tu manifestes ta grâce, où tu accordes tes bénédictions et tu offres ton secours. Je te remercie de ce que. En nous plongeant tous ensemble dans ta parole, nous serons transformés certainement à ton image pour porter beaucoup de fruits pour ceux qui nous entourent et pour ta gloire. Amen. Certainement, vous avez déjà été déçu à un moment ou à un autre de votre vie par quelqu'un qui joue un double jeu. Il vous est arrivé de tomber des nues en apprenant ce que telle ou telle personne avait décidé de vivre. Je ne doute pas que des parents, des professeurs, des pasteurs, des élus municipaux, des ministres, des présidents vous ont paru faux en prêchant et en prônant des valeurs, des vertus, des sacrifices qu'eux-mêmes ne s'imposeraient pas. Peut-être que vous aussi, comme moi, il vous est arrivé de ne pas être sincère quant à ce que vous éprouviez à l'encontre et aller à l'encontre de vos sentiments, de vos convictions, dans le but de plaire, de choisir le chemin facile, de gagner en importance, de chercher une reconnaissance. Bref, ce matin, nous parlerons de l'hypocrisie à travers une dispute que Jésus aura avec des pharisiens et des scribes. Alors, les pharisiens, c'était des juifs qui appartenaient à un courant politique et religieux qui, à l'origine, cherchait à conduire le peuple vers la libération des empires. Ils se disaient qu'en vivant un profond retour à la loi de Dieu, ils seraient délivrés parce qu'ils pensaient que cette soumission aux empires, c'était une sanction de Dieu. Alors, ils exerçaient une grande pression morale sur les autres juifs, se présentant eux comme les vrais adorateurs de Yahweh. Et au fil du temps, cette posture leur procurait de la prestance, de l'importance, voire même un certain poids politique. À côté d'eux, existaient aussi les scribes, qui étaient souvent beaucoup de mèche avec les pharisiens. Les scribes, ou dans vos Bibles, on trouve peut-être docteur de la loi ou maître de la loi. Eux, c'était des experts en Bible, en Torah, qui maîtrisaient tous les passages sur le bout des doigts et avec comme vocation d'enseigner le peuple. Et eux aussi, je ne vous le cache pas, jouissaient d'une grande admiration et d'une grande importance parmi le peuple. Mais voilà, leur rencontre avec Jésus ne se déroulera certainement pas comme ils l'avaient prévu. Et nous lisons ensemble Luc, chapitre 11, versets 37 à 54. Quand Jésus eut fini de parler, un pharisien l'invita à prendre un repas chez lui. Et Jésus entra et se mit à table. Le pharisien alors s'étonna et remarqua que Jésus ne s'était pas lavé les mains avant le repas. Le Seigneur lui dit: Ah, voilà comment vous êtes, vous les pharisiens. Ah, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur, vous êtes plein de désirs, de voler, de méchanceté. Ah, insensé que vous êtes! Dieu qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez donc plutôt aux pauvres ce qui est dans vos coupes et dans vos plats, et tout sera pur pour vous. Quel malheur pour vous, pharisiens! Vous donnez à Dieu le dixième des plantes, comme la menthe, des plantes des prés, ainsi que toutes sortes de légumes, hein. Mais vous négligez la justice et l'amour pour Dieu. C'est pourtant cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Quel malheur pour vous, pharisiens! Vous aimez les sièges les plus en vue dans les synagogues et vous aimez être salués sur les places publiques. Quel malheur pour vous! Vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans savoir. Et un spécialiste des Écritures lui dit, Maître, en parlant ainsi, tu nous insultes nous aussi. Hein? Et Jésus lui répondit, mais quel malheur pour vous aussi, les spécialistes de la loi. Vous mettez sur le dos des gens des fardeaux difficiles à porter. Et vous ne bougez vous-même pas un seul doigt pour les aider à porter ce fardeau. Quel malheur pour vous! Vous construisez de beaux tombeaux pour les prophètes, hein, ces prophètes que vos ancêtres ont tués. Et vous montrez ainsi que vous approuvez les actes de vos ancêtres, car ils ont tué les prophètes et vous, vous construisez leurs tombeaux. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a déclaré « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tueront certains et en persécuteront d'autres. » Par conséquent, cette génération supportera les conséquences des meurtres commis contre tous les prophètes depuis la création du monde, depuis le meurtre d'Abel jusqu'à celui de Zacharie qui fut tué entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous l'affirme, cette génération supportera les conséquences de tous ces meurtres. Quel malheur pour vous, spécialistes des Écritures. Vous avez pris la clé permettant d'ouvrir la porte du savoir. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez ceux qui désirent entrer d'y entrer. Quand Jésus fut sorti de cette maison, les spécialistes des Écritures et les pharisiens se mirent à s'acharner contre lui, à lui poser des questions de toutes sortes de sujets, et ils lui tendaient des pièges pour essayer de surprendre quelque chose de faux dans ses paroles. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ah, comme ce pharisien a dû regretter cette petite remarque à propos du fait de se laver les mains ou pas. Quel déluge, quelle avalanche de la part du Seigneur qui ne les ménage en rien. Hypocrisie sur l'observation des règles. Oui, vous donnez la dîme de tout, jusqu'à la moindre plante, mais ça vous arrache le cœur de pratiquer l'aumône envers les miséreux qui est assis au coin de votre rue. Ah, vous craignez pour votre pureté parce que le plat n'est pas lavé à l'extérieur ou parce que je ne me suis pas lavé les mains, mais c'est la pureté de votre cœur dont il faut vous soucier plutôt que celle des apparences. Hypocrisie sur leur humilité. Oui, vous affirmez chercher l'amour de Dieu, mais vous, vous aimez vous-même par-dessus tout. Vous aimez la première place. C'est là le cœur de votre motivation. Et comble de la critique, Jésus les compare à des tombeaux sur lesquels on marche par accident. Voyez-vous, les Juifs devaient conserver une pureté rituelle pour pouvoir monter dans le temple, entrer dans l'enceinte du temple de Dieu et y offrir des sacrifices. Et une des choses qui pouvait nous faire perdre cette pureté rituelle, c'est d'entrer en contact avec la mort, avec un cadavre, avec du sang, avec et donc de marcher sur une tombe. Et donc les Juifs avaient pris l'habitude de bien marquer les emplacements où des gens étaient enterrés, où soit ils blanchissaient le sol, ils posaient des pierres, des cairns, quelque chose. Il ne faut pas que quelqu'un se retrouve sans s'en rendre compte, en état d'impureté rituelle et contamine les autres. Alors quelle ironie que Jésus dise des pharisiens, vous êtes comme des tombeaux sur lesquels on ne marche mais sans s'en rendre compte. Quoi. Vous prétendez être l'élite spirituelle du peuple, vous les rendez impurs à leur insu. Vous les contaminez à leur insu. C'est le médecin qui, malgré lui, contamine ses patients. Quoi. Alors les scribes en prendront pour leur grade aussi, eux qui de leur bouche honorent les prophètes d'autrefois. Ah, nos ancêtres ont tué les prophètes d'autrefois. Si nous avions vécu, nous, à cette époque-là, nous n'aurions pas fait pareil. Et pour prouver leur dire, ils bâtissent des tombeaux pour honorer ces prophètes d'autrefois que malheureusement leurs ancêtres ont mis à mort. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas face à un prophète d'autrefois, ils sont face à un prophète d'aujourd'hui, qui est le Christ, et ils cherchent aussi à le perdre. Ce faisant, Ils marquent bien qu'ils sont les dignes héritiers de leurs ancêtres, puisqu'ils persécutent encore et cherchent encore à faire mourir les prophètes. Ces scribes, gardiens du savoir et de la connaissance de Dieu, ont jeté la clé de la connaissance. Mais ils n'ont pas fait que jeter la clé de la connaissance, en fait. Ils ne sont pas rentrés dedans. Puis ils n'ont pas fait que jeter la clé de la connaissance et ne sont pas rentrés dedans. Ils veulent empêcher ceux qui chercheraient à retrouver une clé ou à rentrer, d'y rentrer. Alors oui, ce sont des acteurs, des comédiens qui jouent un rôle afin d'être considérés pour ce qu'ils ne sont pas, pour gagner ce qui ne leur revient pas, pour régner sur ce qui ne leur appartient pas. Ils vivent de façon choisie dans les ténèbres. Leur cœur est complètement plongé dans l'obscurité. Ils sont ce que nous appelons des hypocrites. Le dictionnaire de théologie biblique catholique décrit ainsi la conduite des hypocrites. Ils sont ceux dont les conduites n'expriment pas les pensées du cœur. Plus qu'un manque de sincérité, c'est un manque de loyauté et de droiture. Si le menteur ment contre les faits, l'hypocrite ment contre ses sentiments. C'est intéressant de souligner ce dernier point. Le menteur ment contre les faits, l'hypocrite ment contre ses sentiments. Le menteur détourne la vérité de ce qui s'est passé. Par exemple, mes deux enfants débarquent et racontent la même bêtise. Sauf que les deux récits sont différents pour accuser tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc, ils mentent sur ce qu'il s'est passé. Mais si, par exemple, je vois Manoah frapper son frère, ou Elliot frapper Manoah, ça peut être l'un ou l'autre, et que je lui dis, mais Manoah, est-ce que tu as cherché à lui faire mal? Et qu'il me dit, non. Donc la question que je lui pose, ce n'est pas sur le fait qu'il l'ait frappé ou non, parce que ça, il se doute bien qu'il ne peut pas me faire croire qu'il ne l'a pas fait, puisque je l'ai vu. Donc il n'est pas possible de mentir sur les faits. Sur quoi est-il possible de mentir? Sur l'intention qu'il poursuivait à travers ça, sur ce qui se passe dans son cœur. L'hypocrite mentira sur ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, sur ce qu'il ressent, sur ses intentions réelles, sur ses pensées, sur ses désirs, ses envies, sa peur. Et cela distingue vraiment l'hypocrisie du mensonge. Car si parfois un mensonge peut être démasqué par un contre-témoignage, on va dire, personne d'autre que vous-même n'êtes témoin de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sauf Dieu. Dieu est témoin aussi. Donc j'ai un pouvoir absolu de discours que je vous sers à propos de mes états d'âme. Je suis souverain absolu, je peux m'inventer une réalité intérieure complètement fausse, pavée de piété, de repentance, de compassion, de miséricorde, et vous la servir que vous n'auriez pas les moyens de voir si c'est vrai ou si c'est faux. Ce qui me trahira certainement un jour, c'est le décalage qui ne manquera pas d'arriver entre les faits, c'est-à-dire mes actions, mes attitudes, mes comportements, et tout le discours que je vous aurais tenu sur ce qui se passe au fond de mon cœur. Et je vous prie de me croire, ça arrive toujours. Parfois, ceux qui s'en rendent compte autour de nous nous le disent, parfois pas. Soit qu'ils nous méprisent pour cela, soit qu'ils ont peur des conséquences pour eux, peur des conséquences pour nous, ou peut-être tout simplement peur de nous. Mais qui d'entre nous n'a pas relevé des incohérences entre nos parents? Vous connaissez l'adage. Ah oui, les parents, c'est « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Cela montre bien qu'ils ont un discours sur la morale, sur l'honnêteté, sur les vertus, le comportement, l'éthique, qu'eux-mêmes n'arrivent pas à tenir. Entre convictions affichées et comportement, et nous aussi, certainement, nous aussi, nous vivons dans ces contradictions et nous aurons une tendance, ici ou là, à pratiquer un peu l'hypocrisie. Nous avons grandi en apprenant à mentir et à dissimuler et à cacher ce qui se passe au fond de nous. C'est un lieu secret, privé, et nous n'aimons pas que n'importe qui vienne y farfouiller. Et je pense que c'est grave de prendre l'habitude de mentir sur ce qui se passe au fond de nous. Et pourtant, paradoxalement, nous sommes très fréquemment challengés, défiés à ce propos. Car à notre époque, si on pose très facilement des questions sur la vie intérieure, sur l'opinion, sur les sentiments de quelqu'un, on vit assez mal que quelqu'un nous refuse de dire le fond de notre pensée. D'un autre côté, il arrive si souvent que nous préférerions garder pour vous notre ami, garder pour nous nos préférences, garder pour nous ce qui se trame au fond de nous. Mais voilà, alors on nous a posé une question et ça ne se fait pas de ne pas répondre. C'est douteux, c'est impoli, ingrat. Et pourquoi? Alors, petit conseil que j'essaye de m'appliquer, apprenez à répondre que vous ne voulez pas répondre. Commencez au téléphone lorsqu'on vous démarche, vous savez, bonjour, est-ce que vous avez entre 45 et 65 ans? Bonjour, est-ce que vous habitez machin truc? Est-ce que vous possédez une télévision? Faites le test, vous répondez, monsieur, madame, je ne désire pas répondre. Pourquoi? Parce que c'est mon désir. Vous allez voir, ce n'est pas si facile au début. Nous sommes conditionnés pour répondre aux questions qu'on nous pose. Et on a appris que c'était mal poli, que ce n'était pas bien de ne pas répondre aux questions qu'on nous pose. Est-ce que vous êtes réellement souverain sur dire ou pas dire ce qui se passe au fond de vous? Vous êtes réellement souverain sur le fait de dire ou pas dire ce qui se passe au fond de vous? Assumez cette souveraineté et ses conséquences, il y en aura. Personne ne peut venir lire ce qui se passe au fond de votre cœur et donc vous pouvez le taire, oui. Et oui, cela aura des conséquences, le plus souvent même. Mais vous pouvez choisir à qui, quand et où vous livrerez le fond de votre âme. Et de l'autre côté, le Seigneur est là, lui, présent dans votre âme, dans votre cœur. Il sait tout, il voit tout. Il sait si nous sommes hypocrites, doubles ou simples, purs et sincères. Oui, il le sait, il lit le fond de mon cœur. Même ce que moi, je ne m'avoue pas à moi-même, mes dénis, mes aveuglements, ces choses-là sont limpides et claires pour lui. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas choisir d'être des disciples de Jésus et vouloir en même temps nous compromettre avec l'hypocrisie. L'hypocrisie des scribes et des pharisiens conduisait littéralement à la mort spirituelle. Je ne suis pas en train de dire que la vôtre, c'est pareil. Mais c'est la même chose, à des intensités complètement différentes. Le champion du monde, toute catégorie de l'histoire de l'hypocrisie, c'est le serpent ancien, le diable. C'est lui qui a inventé le concept, il a posé le brevet. mentir sur ses intentions réelles. Arriver vers Adam et Ève et leur dire, mais en fait, le Seigneur, c'est pas le mieux qu'il veut pour vous. Moi, je peux vous indiquer qu'est-ce qui est le mieux vraiment pour vous, parce que je veux en fait, Dieu, il veut garder la meilleure part pour lui. Voilà. Quelqu'un qui arrive avec des intentions pareilles. Il dit vous faire du bien, chercher votre intérêt, alors qu'il cherche votre ruine. Il n'y a rien de bon dans l'hypocrisie. Elle ne produit aucun fruit du royaume. Et si l'hypocrisie peut procurer une certaine puissance, une certaine paix, une certaine gloire, une certaine sécurité, c'est vrai. Cela est éphémère. Cela finira par passer. Et celui qui s'installera là-dedans vivra dans la crainte d'être démasqué, dans la crainte de la chute. La lumière du Seigneur donne aussi paix, puissance, gloire, sécurité, mais d'une autre nature. Plus difficile pour nous à saisir parce que nous n'y sommes pas habitués, mais qui, elles, demeureront éternellement. Même si dans cette vie, ils seront peu nombreux à voir cette paix, à comprendre cette gloire, à reconnaître cette puissance et à saisir cette sécurité. Mes amis, il n'y a rien de bon dans l'hypocrisie. Il n'y a que vous qui puissiez gérer cela, poser une parole sur ce qui passe au fond de vous. Et donc, c'est à vous de jeter les fondations de relations saines, sincères, fiables avec celles et ceux qui vivront autour de vous. Comment affronter cette hypocrisie au fond de moi ? Il faut tout d'abord allumer la lumière. Allumer la lumière au fond de soi. Et pour nous, les chrétiens, allumer la lumière se passe par une rencontre avec Christ. Que ce soit par la méditation de la parole de Dieu, que ce soit par la prière, ou le plus dur, par une confession de soi-même à un autre frère ou à une autre sœur en Christ. Le point commun ? La parole. Lire la parole de Dieu, parler soi-même à Dieu, vivre, donner une parole à un frère ou à une sœur en Christ, parler. Mais parler, prier ou lire la parole en utilisant les mots autrement. Parce que l'hypocrite maîtrise parfaitement l'art des mots, des sentiments, les pirouettes galipettes verbales. Mais son art des mots sert à camoufler, à dissimuler, à noyer le poisson, convaincre du faux. La parole de lumière sert à dévoiler, révéler, nommer un chat, convaincre du vrai, bénir, délimiter, déterminer. Les Écritures saintes sont une parole de lumière fiable. Si vous ne savez pas par où commencer, il peut être bon de commencer par respirer, manger les Écritures en les priant. Je ne sais pas si vous allez faire ça. Vous lisez les Écritures et vous transformez ce que vous lisez en prière. En somme, vous vous placez à l'écoute d'une parole de lumière et vous vous l'appropriez afin de la dire à votre tour, mais d'une façon lumineuse. Pas hypocrite. Par exemple, ce que ça pourrait être, hein, c'est un exemple. Hein. Prends le psaume 46. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, et si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Ok, je lis ça. Qu'est-ce que je peux prier dans la lumière ? Dieu, je voudrais que tu sois pour moi un abri sûr et un secours, toujours prêt dans la détresse. Mais si la terre se met à trembler et si les montagnes s'écroulent au fond des mers et si les flots grondent et bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes, franchement, j'aurais peur, je serais terrifié et liquéfié. Voilà. Peut-être que l'hypocrite se lèverait en assemblée et dire: oui, Seigneur, tu es pour moi un refuge et je ne crains jamais rien quand bien même les montagnes s'effondreraient. Ou peut-être que ce que vous vivez avec le Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, oui, il est vraiment un abri sûr pour vous. Mais vous voyez comment je peux transformer la parole en prière. Et rien que faire ça déjà, vous êtes en train de mettre dans votre, vous êtes en train de mettre la lumière dans votre cœur. Je lis ces mots de lumière que je trouve dans les Écritures saintes, je les mange et je les prie. Ainsi, ces mots vont révéler, dévoiler, parce que la lumière révèle et dévoile, un chemin dans votre vie. Rien que là, il commence à se dévoiler. Ah ! Pourquoi Dieu n'est pas un abri sûr pour moi ? Seigneur, je voudrais que tu sois un abri sûr. Ah, ben voilà un chemin. Je suis ici, là-bas, il y a Dieu est un abri sûr pour moi, et moi je suis à, je voudrais que Dieu soit un abri sûr pour moi, et entre Dieu est un abri sûr pour moi et je le voudrais, il y a un chemin à vivre qui vient de s'allumer. Ah. Et je pars en quête, et je marche vers quelque chose qui m'est promis. N'est-ce pas ce que disent les Écritures ? Guillaume nous avait fait toute une liturgie là-dessus. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une simple règle à appliquer ? Soyons sincères. Ça veut dire, utilisons les mots pour qu'ils éclaircissent et non qu'ils obscurcissent. Pour qu'ils dévoilent et non qu'ils dissimulent. Et ensuite, c'est là qu'on s'arrête. Parce qu'on prie, on parle à Dieu, ou ah là, le chemin nous paraît parvenir à la perfection du Christ. Allez, c'est foutu, on arrête. J'y arriverai jamais. C'est trop dur. Ça demande trop de remise en question. Non, mais tu t'imagines tout ce que... Chacun son job. Chacun son job. Faites le vôtre et le Seigneur fera le sien. Je m'explique. Je dois combattre l'hypocrisie en moi, apprendre à faire régner cette lumière dans ce monde intérieur connu de moi seul et de Dieu. Et si Dieu me demande d'être dans la lumière sur ce qui se passe au fond de moi, ne doit-il pas lui aussi appliquer la règle ? Non ? Pensez-vous que Dieu me demande quelque chose que lui ne s'imposerait pas ? Ça arrive tellement souvent que je rencontre des chrétiens qui vivent ce paradoxe. Dieu me demande des choses que lui, il ne s'impose pas. Dieu me demande de pardonner 70 fois 7 fois, mais je ne suis pas sûr que lui me pardonne 70 fois 7 fois le même péché, hein. Dieu me demande de bénir mes ennemis et ceux qui me persécutent, mais je ne suis pas sûr que Dieu il garde son regard bienveillant sur moi quand je lui désobéis. Vous voyez comme on est capable de croire que Dieu nous impose des choses à nous, mais que lui-même ne suivrait pas. Et là, qu'en est-il ? Dieu me demande d'avoir des paroles vraies sur ce qui se passe au fond de mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que lui me garantit que tout ce qu'il me dira à propos de ce qui se passe au fond de son cœur sera vrai. Ah. D'accord. Et oui, Dieu doit être lumière et sincère, lui aussi, s'il s'attend à ce que moi je vive dans la lumière et dans la vérité. Et vivre dans la lumière et la vérité, je vous le rappelle, hein, ça ne veut pas dire tout dire. Le silence est une réponse acceptable. D'ailleurs, on se plaint un peu souvent que Dieu reste souvent dans le silence, n'est-ce pas ? Du coup, quand Dieu me dit quelque chose de ce qui se passe au fond de son cœur, à lui, ne devrais-je pas le croire ? lorsque le prophète est dit de la part de Dieu, « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, est-ce que je désire que le péchant meure, moi ?» Non, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. « Revenez à moi, revenez de vos mauvaises voies, pourquoi mourir-vous, maison d'Israël ?» Ou encore quand Dieu dit, « Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais, et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. » Hypocrisie ? Ou parole vraie et sincère ? Qui a accès au fond du cœur de Dieu si ce n'est Dieu ? Moi-même, je peine à accéder au fond de mon propre cœur. Alors, si Dieu me demande de me tenir dans la lumière, dois-je le croire lorsqu'il dit lui-même être dans la lumière ? La première épître de Jean que nous a lu Guillaume ce matin dit aussi « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. » Mes amis, Dieu est lumière, il ne triche pas, il ne trompe pas. Ce qu'il dit à propos de ce qu'il y a au fond de son cœur est plus fiable que l'existence du monde lui-même. C'est éternel. Ce que Dieu nous partage à propos de son amour pour nous est plus stable que les fondations des montagnes. C'est ici que je dois venir puiser la force, l'assurance, saisir la garantie que ce voyage sur ce chemin immense qui se dresse devant moi, sinueux, j'arrive pas à en voir le bout, n'est pas vain, il est saint. Oui, la parole illumine le sentier devant moi. Oui, ce sentier me semble serpenter au-delà de ce que je peux voir, passer par des crevasses, des ravins, des chemins de crête. Et je vais y laisser mon amour propre, mes prétentions, mes ambitions, mes illusions. Mais pas pour rien. Pas juste pour sauver ma peau. En échange, il m'est proposé de recevoir un amour vrai et de devenir capable de le donner, de recevoir des dons et de les exercer, d'exalter mes talents, de poursuivre non pas des illusions, mais des promesses divines. Non pas d'avoir des ambitions personnelles, mais de partager celles du Christ. Ce périple de pèlerin est un voyage intérieur où j'enracine mon cœur dans les mots de lumière du Christ, pour porter des fruits merveilleux pour ceux qui m'entourent. Et le point de départ et la source de ce voyage, c'est ce que Dieu pense et ce qu'il dit éprouver à propos de moi. Qu'il nous soit donné d'accepter ce deal, ce contrat, cette alliance de lumière. Ok, tu me dis vraiment ce que tu penses de moi, et moi j'apprends à vivre dans ta lumière. Et comment le Seigneur répond ? Deal, je te donne mon esprit. Je te connecte à moi. Tu veux connaître mon cœur ? Je te connecte à mon cœur. Je te donne mon esprit. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit pour vous rendre esclaves et vous remplir encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de nous des enfants de Dieu et puis qui nous permet de crier « Abba, Père ». Et l'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ainsi, vous saurez comment Dieu vous aime, comme son enfant. Et si l'Esprit du Christ est sur vous, les mots du Père pour le Fils deviennent les vôtres. Tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Le croyez-vous ? Le saviez-vous ? Dieu veut la lumière en vous. Amen. Amen pour cela, qu'il nous donne sa lumière. Et c'est par la lumière de l'amour de Dieu en vous que vous devez, que vous êtes appelé, désolé, c'est comme ça, à faire lumière sur ce qui se passe au fond de votre cœur. C'est dur. Mais ce que nous vivons après coup est mieux. Et plus grand, plus simple, plus libre, plus propre, plus joyeux. Et comme Dieu est souverain sur ce qu'il veut dire de son cœur, vous aussi, devenez souverain sur ce que vous voulez dire de ce qui se passe au fond de votre cœur. Soyez un souverain de lumière et non de ténèbres. Et si vous apprenez à régner sur votre cœur comme Dieu règne sur le sien, vous devez laisser les autres régner sur leur cœur. Ne plus prêter des intentions aux autres. Ne plus juger du pourquoi ils ont fait les choses, pourquoi ils ont fait ceci ou cela, sans qu'eux-mêmes vous le disent. Si je veux régner sur mon cœur, je ne dois pas chercher à régner sur le cœur des autres. Nous pouvons juger des actes, nous pouvons juger des paroles, mais nous ne franchissons pas la ligne de l'intérieur du cœur. Respectons cette souveraineté. Quand même, elle nous paraîtrait conduite par les ténèbres. D'ailleurs, rien ne vous oblige à côtoyer quelqu'un de ténébreux. Hein. Mais Paul nous dit ces choses-là. C'est pourquoi ne jugez de rien jusqu'à ce que le temps vienne et le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Il manifestera les desseins du cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. C'est un nouveau règne dans lequel nous sommes appelés à vivre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Chrétiens, chrétiennes, disciples et disciples du Christ rédempteur, vous les prêtresses et les prêtres du Dieu vivant, le Christ nous a arrachés des ténèbres et nous étions condamnés à vivre dans la peur, dans le paraître, dans les jeux de puissance, de domination, de pouvoir, de rivalité, de jalousie. Il nous a arrachés d'un monde où partager notre cœur devait rester dangereux pour nous plonger dans un monde où lui nous partage tout son cœur. Je vous supplie de croire qu'il y a plus de liberté, de joie, de paix et d'amour à donner et à recevoir en apprenant à vivre dans la lumière du Christ que dans les ténèbres. Combattre l'hypocrisie, c'est régner sur son cœur par la puissance du Christ et non par la puissance des ténèbres. Faire des choix de confiance, de silence parfois, plutôt que de mensonge. La puissance du combattant de la lumière ne vient pas de sa propre volonté, mais de l'amour qu'il reçoit de Dieu, de la foi qu'il garde, que la lumière est meilleure, non pas meilleure. Elle est bonne, tandis que les ténèbres sont toujours toxiques. De l'assurance que ce chemin mène à la vie, c'est-à-dire la paix, la joie, l'amour, dans le partage. Vous aurez des souffrances, vous aurez des déceptions, vous aurez de l'incompréhension, vous aurez des rejets. Mais le Seigneur ne vous laissera pas seul. La vie éternelle à laquelle nous sommes promis, destinés, est une vie dans la lumière. Vous pouvez le tourner comme vous le voulez. C'est cela à quoi nous sommes appelés. Et donc, c'est cela dont nous devons rendre témoignage dès maintenant. Amen.